Chapitre 4. Le mal du pays. Pendant tout mon premier trimestre à St. Peter's, j'eus le mal du pays. Le mal du pays, c'est un peu comme le mal de mer. On ne sait pas à quel point c'est épouvantable jusqu'à ce qu'on en soit affligé, et quand ça arrive, on reçoit comme un choc au creux de l'estomac et on a envie de mourir. La seule consolation, c'est que le mal du pays, comme le mal de mer, sont curables instantanément. Le premier disparaît à l'instant même où l'on sort de l'enceinte de l'école et on oublie le second dès que le bateau entre port. J'étais si atrocement malheureux durant les deux premières semaines que je décidai de tenter un coup pour me faire renvoyer à la maison, ne fût-ce que pour quelques jours. Mon idée, c'était de simuler une foudroyante crise d'appendicite. Vous allez sans doute trouver idiot qu'un petit garçon de 9 ans se croit capable de réussir un truc pareil, mais j'avais d'excellentes raisons d'essayer. Un mois seulement auparavant, ma demi-sœur, qui avait 12 ans de plus que moi, avait effectivement eu l'appendicite, et durant plusieurs jours avant son opération, j'avais pu observer de près son comportement. J'avais remarqué qu'elle se plaignait surtout d'une vive douleur au ventre, en bas à droite. En outre, elle vomissait sans arrêt, refusait de manger et avait de la température. Cela vous intéressera peut-être de savoir d'ailleurs que ma sœur eut son appendice enlevé non pas dans la salle d'opération d'un bon hôpital, pleine de lumières brillantes et d'infirmières en blouse blanche, mais sur la table même de notre nurserie à la maison par le docteur du coin et son anesthésiste. À cette époque, il était assez courant pour un médecin d'arriver chez vous avec une trousse d'instruments, de couvrir d'un drap stérile la table la plus commode et de se mettre à l'œuvre. Pour cette occasion, je me vois encore caché dans le couloir près de la nurserie durant l'opération. Mes autres sœurs étaient avec moi et nous attendions, fascinés, écoutant les murmures assourdis des docteurs derrière la porte fermée à clé et imaginant la patiente avec le ventre fendu en deux, comme un quartier de bœuf. Nous pouvions même sentir l'odeur écœurante de l'éther filtrant par-dessous la porte. Le lendemain, nous fûmes autorisés à examiner l'appendice lui-même dans un bocal en verre. C'était une sorte de ver de terre noirâtre, assez long, et je demandais « J'ai un truc comme ça dans le ventre, Nounou ?»« Tout le monde en a, » répondit Nounou. « À quoi ça sert ?»« Les voies du Seigneur sont impénétrables, » dit-elle, ce qui était son explication courante lorsqu'elle ignorait la réponse à une question posée. « Et qu'est-ce qui le rend malade ?» demandai-je. « Les poils de brosse à dents, » répondit-elle, sans la moindre hésitation cette fois. « Les poils de brosse à dents ?» m'exclamai-je. Comment des poils de brosse à dents pourraient-ils abîmer un appendice ? Nounou, qui à mes yeux était doué de plus de sagesse que Salomon, répondit « Quand un poil se détache de ta brosse à dents et que tu l'avales, il se plante dans ton appendice et le fait pourrir. » Pendant la guerre, poursuivit-elle, des espions allemands s'arrangeaient pour introduire dans nos magasins des caisses entières de brosse à dents dont les poils ne tenaient pas bien et des millions de nos soldats ont eu l'appendicite. « C'est vrai, Nounou ? » m'écriai-je. « C'est vraiment vrai ?» « Je ne te mens jamais, mon enfant, » répondit-elle. « Alors que ça te serve de leçon, n'utilise jamais une vieille brosse à dents. » Par la suite, durant des années, je m'inquiétais chaque fois que je trouvais un poil de brosse à dents sur ma langue. Lorsque je montais frapper à la porte marron après le petit déjeuner, je n'avais même pas peur de la surveillante. « Entrez !» tonna sa voix. J'avançais dans la pièce, une main crispée sur le côté droit de mon ventre, d'une démarche pathétiquement chancelante. « Qu'est-ce que vous voulez ?» hurla la surveillante. Et la vigueur même de sa voix fit trembler sa poitrine, tel un gigantesque flanc.
« J'ai mal, madame la surveillante, » dis-je d'une voix gémissante. « Oh, j'ai tellement mal, juste là. »
« Vous avez trop mangé ?» aboya-t-elle. « Qu'est-ce que vous vous imaginez si vous vous goinfrez de cake à longueur de journée ?»«
Je n'ai rien mangé depuis des jours, » prétendis-je. « Je ne pouvais rien avaler, madame la surveillante. Je ne pouvais pas, tout simplement. »«
Étendez-vous sur le lit et baissez votre culotte, » ordonna-t-elle. Je me couchai sur le lit. Elle commença à me palper violemment le ventre avec les doigts. J'épiais attentivement ses gestes et lorsqu'elle appuya à l'endroit où je supposais se trouver l'appendice, je poussai un cri qui fit vibrer les vitres.
« Aïe, aïe, aïe !»
hurlai-je.
« Ne faites pas ça, madame la surveillante, je vous en prie !»
J'abattis alors mon atout maître.
« J'ai vomi toute la matinée, » pleurnichai-je. « Et maintenant, j'ai plus rien à vomir, mais je continue à avoir mal au cœur. »
C'était bien joué.
Je la vis hésiter. « Restez là, » dit-elle. Et elle sortit rapidement de la pièce. C'était peut-être une femme brutale et malfaisante, mais elle avait fait des études d'infirmière et ne tenait pas à se retrouver avec une péritonite sur les bras. Le docteur arriva en moins d'une heure, entreprit à son tour de me palper, de m'appuyer sur le ventre, et je poussais des cris déchirants au moment que je jugeais approprié. Il me glissa ensuite un thermomètre dans la bouche. « Hum, fit-il, température normale, voyons, laisse-moi t'examiner à nouveau.
»
hurlai-je dès qu'il effleura l'endroit crucial. Le docteur se retira de la pièce en compagnie de la surveillante. La surveillante revint une demi-heure plus tard et m'annonça « Le principal a téléphoné à votre mère, elle viendra vous chercher cet après-midi. » Je ne fis aucun commentaire. Je restai couché, m'efforçant de paraître au plus mal, mais dans mon cœur résonnaient toutes sortes de merveilleux chants de louanges et de joie. Je traversai le canal de Bristol sur le vapeur à aube pour rentrer chez moi et j'éprouvais un tel sentiment de bonheur depuis que j'avais quitté ma redoutable école que j'en oubliais presque que j'étais censé être malade. Dans l'après-midi, je fus examiné par le docteur Dunbar dans son cabinet de Cathedral Road à Cardiff et j'essayais d'utiliser à nouveau les subterfuges qui m'avaient si bien réussi. Mais le docteur Dunbar était plus avisé et beaucoup plus compétent que la surveillante ou le médecin de l'école. Après m'avoir palpé le ventre et entendu pousser des cris de douleur, il me dit « Tu peux te rhabiller maintenant, tiens, assieds-toi sur cette chaise. » Lui-même s'assit derrière son bureau et me fixa d'un regard pénétrant mais dépourvu de méchanceté. « Tu joues la comédie, n'est-ce pas ? » demanda-t-il. « Comment le savez-vous ? » bredouillai-je. « Parce que tu as le ventre souple et parfaitement normal, » répondit-il. « Si tu avais une inflammation quelconque, il serait dur et tendu. C'est très facile de voir la différence. » Je demeurai silencieux. « Je suppose que tu t'ennuies de chez toi, » reprit-il. J'acquiesçai, misérablement, d'un signe de tête. « C'est normal au début, » dit-il. « Il faut que tu serres les dents. Et tu ne dois pas en vouloir à ta mère de t'avoir envoyé dans un pensionnat. » Elle trouvait que tu étais trop jeune pour partir de chez toi, mais c'est moi qui l'ai persuadée que c'était la meilleure chose à faire. La vie n'est pas une partie de plaisir, et plus vite tu apprendras à t'en tirer, mieux ça vaudra pour toi. « Qu'est-ce que vous allez leur dire à l'école ? » demandai-je, en tremblant. « Je leur dirai que tu avais une grave infection intestinale que je traite avec des cachets, » répondit-il, en souriant. « Cela signifie que tu devras rester à la maison encore pendant 3 jours. Mais promets-moi de ne pas recommencer ce genre de plaisanterie. » Ta mère a déjà suffisamment de problèmes sans être en plus obligée de se ruer à l'école pour aller te chercher. Je vous le promets, dis-je, je ne le ferai jamais plus.